Chapitre 38. Sombre préparatif. L'être qui avait dévalé la montagne d'un pas irrégulier et erratique n'avait plus grand-chose d'humain. Sa progression aurait semblé rapide, comparée à un homme normal, mais paraissait considérablement entravée, ralentie, par les nombreuses blessures qui recouvraient son corps. Son crâne rouge, à vif, d'où émergeaient çà et là quelques poignées de cheveux noirs, son visage bruni par la cendre et le sang, l'emplacement cicatriciel de sa pierre frontale brisée, sa toge en lambeaux, ses membres brûlés si profondément qu'on ne savait comment il pouvait s'y appuyer, la torsion bizarre de son corps qui paraissait rompu en plusieurs points, et la mauvaise toux qui le secouait dans un spasme violent à intervalles réguliers, tout prédisait la mort prochaine de Sornar. Il était cependant mu par une force intérieure prodigieuse et traversait les accidents du chemin comme s'il eût volé. Lorsqu'il détecta la présence de Keller, cependant, il prit la peine de se dissimuler dans un épais taillis. La présence du bâtard lui était indifférente, mais il s'agissait d'un homme sain et robuste, puissamment motivé, et dans l'état où il était, il n'était pas sûr de pouvoir l'affronter. Mieux valait le laisser passer son chemin, seule la mort et la désolation l'attendaient là où il semblait se rendre, et à l'heure qu'il était, son bien le plus précieux était probablement déjà entre les mains de Joris. Les catacombes d'Albâtre s'étendaient sous l'ensemble de la ville, pas de frontières dans ces enfers, entre haute et basse ville. Le réseau de cavernes et de souterrains avait été utilisé des siècles auparavant par les bâtisseurs. On y accédait aux fondations de presque tous les grands bâtiments. Et puis, de siècle en siècle, ces souterrains avaient correspondu au goût de l'intrigue et de la clandestinité d'un certain nombre de groupes. Les frères sombres en avaient toujours été les seigneurs et maîtres, mais d'autres aventuriers s'y étaient risqués. Des bas citoyens curieux ou malins, qui monnayaient très cher de brefs aperçus de la haute ville, des apostats incapables de s'adapter à leurs nouvelles conditions, des hauts citoyens venant perpétrer des crimes d'amour ou de sang, des personnes armées et dangereuses pour la plupart. Mais à présent ces galeries allaient être nettoyées, purifiées, leurs entrées seraient presque toutes condamnées, des travaux d'aménagement pour les rendre vivables y seraient entrepris. Ces galeries seraient le royaume sous le royaume, le véritable cœur invisible du pouvoir, au moins temporairement. Sornar utilisa pour rentrer la même issue qu'il avait empruntée pour sortir, une grotte dans la forêt, dont le fond obscur recélait une ouverture à peine assez large pour le passage d'un homme. Après avoir vérifié que personne ne le suivait, il s'y hissa, non sans de grandes douleurs de tout le corps, et au bout de quelques minutes d'une progression difficile, il rejoignit son dédale ténébreux. Les cris de l'enfant le guidèrent et lui redonnèrent des forces pour sa dernière étape. Joris, qui avait détecté sa présence depuis longtemps, courut au-devant de lui. « Aide-moi, Joris !» souffla Sornar. « Mon corps a souffert, mais j'ai obtenu le codex. » Joris eut une expression bizarre, indéchiffrable, qui déplut à Sornar pendant un bref instant. Il fut un temps où Sornar aurait pu tuer sur le motif d'un regard semblable, mais Sornar avait besoin de Joris et chassa ce doute d'un revers de l'esprit. « L'enfant est ici, sa santé a l'air bonne. » « Il va falloir hâter la cérémonie de la transsubstantiation, » déclara Sornar. « La surface de mon corps est trop brûlée pour qu'il survive longtemps. Tout est-il prêt ?» Joris hésita une seconde, comme s'il prenait conscience tout à coup que le maître était mourant, qu'il était à sa merci, qu'il n'avait plus le pouvoir. « As-tu tué ta sœur ?» demanda Sornar. « Je l'ai laissée pour morte, » répondit Joris distraitement. « Elle m'avait contraint à ne pas la tuer. » « Rassemble des frères, fais-les entrer en méditation collective et commencez le chant de la nécromancie. Il me faudra plusieurs heures de méditation pour achever ma préparation. »« Tout se passera-t-il comme prévu ?» Joris regardait Sornar avec concentration. C'était le moment de s'assurer définitivement de sa loyauté. « Tu m'aideras à sortir de mon corps, tu surveilleras mon nouveau corps comme si c'était le tien et tu veilleras à m'assister pour ma seconde naissance dans 15 révolutions. » La contrainte avait été douce, mais l'injonction était gravée dans les fibres mêmes de l'être de Joris. « Après, tu seras libre et puissant, » ajouta Sornar. Joris s'inclina respectueusement. Chapitre 39. Retour à la lumière. Omon n'avait pas dormi depuis 48 heures, et il avait du mal à supporter l'incapacité de l'esprit. Les papillons avaient envahi la haute ville comme une véritable plaie. Les hauts citoyens s'étaient rendus presque immédiatement lorsque ce coup de grâce leur avait été porté. Aucun des bas citoyens ne pouvait réellement comprendre ce que signifiait pour eux la perte de leur pouvoir psychique, C'était une plongée dans le handicap, dans la dépendance, dans le dégoût de soi. Aumont entrevoyait toute la pertinence de cette action radicale, qui seule pouvait remettre tous les citoyens d'Albâtre au même niveau. Il fallait que les bas citoyens soient vainqueurs et triomphants, et il fallait que les hauts citoyens perdent toute notion de leur supériorité. Il fallait qu'ils se sentent humiliés pour accepter le dialogue et pour tendre la main. C'était le seul traitement qui pouvait offrir une alternative. Mais il était atrocement difficile de renoncer à cette faculté qui était leur depuis l'enfance, avec laquelle ils vivaient au quotidien, qui leur était aussi naturelle que de se mouvoir ou de parler. Aumont savait que ce sacrifice était indispensable, inéluctable, utile, mais la perspective de vivre sans avoir recours à l'esprit pendant plusieurs années ressemblait à un immense tunnel sans voir la lumière du jour. Il était occupé à coordonner les informations et les consignes depuis déjà plusieurs heures. Le retour à l'ordre avait pris moins de temps qu'il ne l'avait redouté. Il ne fut pas nécessaire d'en venir aux extrémités préconisées par Keller. Les massacres gratuits répugnaient à Aumont, mais les exécutions sommaires lui déplaisaient tout autant. Il se félicitait que de simples manœuvres de patrouille, de fréquents rapports, des consignes précises tombant régulièrement, aient suffi à canaliser l'énergie dévastatrice de la victoire. Il ne fallait surtout pas que l'armée du soulèvement s'arrête là, qu'elle se démobilise après avoir détruit. Il fallait qu'elle poursuive, que des habitudes se créent, que des réseaux humains se mettent en place. C'était à cela que travaillait Aumont. Il essayait de garder la hauteur de vue suffisante pour assurer une cohérence globale et se révélait, il devait l'avouer sans fausse modestie, assez doué pour cette tâche. Il avait d'abord ordonné aux différentes escouades de poursuivre les patrouilles, puis avait assuré une relève progressive des hommes. Un texte qu'il avait lui-même rédigé avait été crié à l'adresse des hauts citoyens, les invitant à rester chez eux jusqu'au retour au calme et à se préparer à la perte de leur pouvoir psychique. Un gouvernement provisoire, auquel ils seraient invités à participer, devrait bientôt être mis en place. Les jours de l'oppression de la ville basse étaient finis, et une nouvelle ère devait commencer pour Albâtre. Aumont refusait pour le moment de penser à tous les innombrables problèmes qui allaient se poser. Partage des logements, distribution du travail, tensions entre les communautés, affrontements physiques, redéploiement des richesses, constitution d'un gouvernement mixte, rédaction d'une nouvelle législation. La liste était infinie et lui donnait le vertige, mais il fallait bien commencer par quelque chose. La guilde du pouvoir, conformément au désir de Keller, venait juste d'être incendiée. Aumont se trouvait donc dans son propre palais, qui n'avait jamais vu tel va-et-vient. Il s'apercevait que tout le monde s'adressait à lui comme à un chef, mais il n'était pas l'heure de remettre cela en cause, alors qu'Aélénor était toujours portée disparue, que Keller était parti et que la cité avait besoin de paix et d'ordre. Un bas citoyen se présenta à lui, manifestement un peu égaré, dans le vaste bureau aux dentelles de pierre et aux vitraux chatoyants. « Monsieur, on m'a dit que vous étiez en charge, » commença l'homme. Aumont le considéra. Le bas citoyen avait une trentaine d'années et paraissait fatigué mais paisible. « Je vous écoute, » dit Aumont. « Nous étions en train de patrouiller dans le secteur dit de la caserne, avant le grand incendie de la guilde du pouvoir. » Aumont lui prêta une attention redoublée. Il se demandait depuis plusieurs heures ce que faisait Sornard et pourquoi il n'était pas intervenu. « Avez-vous trouvé les frères sombres ?»« Il n'y avait pas âme qui vive dans la caserne, monsieur. Enfin, pas de soldats, pas de hauts citoyens. Tout avait été rangé bien proprement, et si vous voulez mon avis, les gens qui ont laissé ce bâtiment avaient bien préparé leur départ. »« Aucune trace de hâte. » »« Non, on aurait dit que tout était abandonné depuis longtemps. On hésitait à fouiller tout le dédale, parce que franchement, il était peu probable que quelqu'un soit encore là, mais les ordres étant ce qu'ils étaient, on a fait un balayage systématique. Et c'est là qu'on a trouvé Aélénor, monsieur. On ne l'a pas reconnue tout de suite, puis on a cru qu'elle était morte, mais c'est bien elle, monsieur, terriblement affaiblie, mais vivante. Aélénor portait un enfant, dit Aumont. L'enfant était là aussi, monsieur, un petit garçon. Vivant ? Il avait si froid que son pouls était bien faible, monsieur, mais on l'a réchauffé comme on a pu pendant le transport, et on a ramené les deux juste à temps avant le grand incendie. Aumont réfléchit un moment, oubliant presque la présence du soldat. « C'est très bien, soldat, je vous félicite, et je me réjouis qu'Aélénor soit de retour parmi nous. Soldat, êtes-vous très fatigué dans votre escouade ?»« Non, monsieur, nous étions à l'arrière cette nuit, nous sommes encore assez frais. Prenez 3 hommes de confiance, et formez une expédition pour essayer de retrouver Keller. » Allez voir le jeune Cardone, il vous donnera les seules indications dont nous disposions. Où se trouvent Aélénor et l'enfant ? À l'infirmerie, monsieur. S'ils sont transportables, veuillez transmettre l'ordre de les faire venir ici, dans mon palais, et tâchez de trouver une femme qui pourra les soigner et rester à leur chevet. Une femme qui a du lait, précisa-t-il. Bien, monsieur. À Eleanor était-elle consciente ? Non, monsieur. Mais le guérisseur n'a pas l'air inquiet. Merci, soldat. Votre contribution a été précieuse. Le soldat laissa Aumont seul et il se mit à faire les 100 pas. Quelque chose allait de travers. La caserne déserte d'abord et l'absence de réaction de la guilde de l'ombre. Où était-il passé et pourquoi ? Et puis l'enlèvement d'Aélénor, qui, selon tous les indices, avait bien été contrainte par un frère sombre. Dans quel but ? Et enfin sa survie, tout aussi inexplicable que son enlèvement. Les frères sombres ne faisaient pas de sentiments, et particulièrement en temps de guerre. Il semblait peu probable qu'on l'ait simplement interrogée pour la laisser pour morte avec son enfant qui venait de naître. Quelles informations aurait-elle pu posséder et transmettre ? Quelle sorte de marché avait-elle pu conclure pour sauver sa vie et celle de son fils ? Quel était le rapport entre Aélénor et Sornar ? Il devait y en avoir un pourtant, où la situation devenait totalement aberrante. Aélénor désirait le succès du soulèvement et savait que la guilde de l'ombre pouvait s'y opposer. Était-elle allée contacter Sornar de son propre chef pour lui demander de ne pas intervenir et lui proposer quelque chose ? Mais quoi ? En échange ? Keller était-il au courant ? Aumont marchait de plus en plus nerveusement, tandis que son intelligence analysait toutes les possibilités. Aélénor et Keller avaient été épargnés lors des meurtres des apostats. Étaient-ils déjà liés à Sornar à ce moment ? Aumont se sentait maintenant si abattu qu'il désigna un de ses amis de la branche active pour le relayer et prévint qu'il se retirait quelques heures pour dormir. Il priait pour qu'à son réveil, Aélénor soit en mesure de lui fournir une explication satisfaisante. Chapitre 40. La cité cimetière. Le chemin qui conduisit Keller à la cité monastère fut une agonie. Il était encore vivant lorsqu'il décida de son départ, mais ne l'était déjà plus lorsqu'il arriva. Au cours du chemin, il ne perdit pas seulement ses dernières forces physiques, déjà fort entamées par sa nuit de combat, mais également ses dernières ressources morales. L'inquiétude qu'il avait ressentie pour Aélénor s'était transmuée en certitude désespérée. La foi qu'il avait gardée dans le soulèvement s'était figée, en écœurement et en regret. Il était un soldat et un homme, en quittant Albâtre. Il n'était plus rien en arrivant dans la montagne. Plus rien qu'une conscience terrifiée et chaotique, qui avait perdu en quelques heures absolument tout ce qui la raccrochait à l'existence. Il se rendait chez les spiritualistes comme un mourant chez le rebouteux, dans un espoir ultime mais vague, irrationnel, à la fois fort et infiniment ténu. Il se moquait bien de la ville à présent, de cette ville à qui il venait de sacrifier la femme qu'il avait toujours attendue. Pourquoi n'avait-il pas été capable de s'enfuir lorsqu'il en était temps ? Pourquoi avoir couru après des chimères ? Aélénor n'aurait pas supporté ce qu'il avait dû supporter, les têtes roulant à ses pieds, les femmes violées, les vainqueurs soudain plus inhumains que leurs anciens bourreaux. À quelle sorte de conte pour enfants avait-il cru ? Il lui semblait maintenant que la vie se riait de sa naïveté et allait lui donner une dernière leçon de cruauté. Morte à Eleanor, mort le bébé en son ventre, et il ne lui restait qu'à mourir lui aussi, car le sens avait soudain et définitivement déserté le monde. Son corps était brûlant, tendu à se rompre, il titubait, saignait, mais sa conscience était ailleurs, déjà loin, très loin de son propre corps, qui le guidait mécaniquement. Il ne savait pas ce qu'il dirait aux spiritualistes, sans doute pourrait-il lire en son esprit, sans doute pourrait-il s'en remettre à eux pour le meilleur ou pour le pire. Les retrouver était le dernier acte rationnel dont il était capable. Ensuite, il le savait, il faudrait qu'il prenne la relève. Il n'éprouva rien en arrivant en vue de leur village, ni contentement, ni hâte, ni détermination. Il commençait à avoir des images confuses devant les yeux, des visages surtout. Celui de Kettel, celui d'Aélénor, celui de Zoroastre, celui anonyme de tous les hommes qu'il avait tués cette nuit, celui de sa mère. Les morts semblaient l'inviter dans leur univers aux couleurs passées, et la tentation était grande de s'allonger et de les suivre, car le monde réel n'était plus que violence, douleur et absurdité. Il pénétra dans le village, sans s'étonner particulièrement de n'y rencontrer personne. Il lui semblait évoluer dans un de ses propres rêves, et s'attendait presque à se réveiller à tout instant. Il entendait la voix d'Aélénor, sa belle, mélodieuse et profonde voix de verbe, qui éveillait toujours le meilleur de lui-même. Il entendait des bribes de conversation en langue noble, puis le fracas des armes et les craquements subits de l'incendie. Ses yeux se fermaient d'eux-mêmes, et il dut faire un gros effort pour les maintenir ouverts et avancer jusqu'à la place du village. Il ne savait pas quoi, mais quelque chose l'attendait là-bas, comme dans ses rêves où la destination se dérobe sans cesse. Il ferait ce dernier effort, puis il déposerait son fardeau. Keller déboucha enfin sur la place ronde, et la vision s'abattit sur lui de toute la force inédite de son horreur. Des corps, par dizaines, les yeux sanglants, les membres brisés, les cheveux gris de l'un effleurant la main baguée de l'autre, par dizaines, peut-être plus, une ronde macabre et terrifiante qu'un seul spectateur désemparé ne pouvait pas soutenir. Keller tomba à genoux et porta la main à ses yeux comme un enfant effrayé. « Je ne veux pas vous enterrer, vous me faites peur, » entendit-il sa propre voix hurler. « J'avais besoin de vous, » ajouta-t-il en suffoquant. Les morts paisibles ne répondirent pas. Le silence de la place était absolu. Les sanglots de Keller ne semblaient même pas l'entamer. Il tomba le visage sur le sol, à quelques mètres des morts, secoué de spasmes si violents qu'ils lui coupaient parfois la respiration pendant plusieurs secondes. Il resta là indéfiniment, puis se leva précipitamment et se mit à faire le tour des cadavres. Il paraissait chercher quelqu'un et s'attardait plus spécialement sur les jeunes femmes. Soudain, son regard frénétique et errant se figea. Il avait aperçu le corps d'une jeune femme brune, enceinte, dont les cheveux rappelaient vaguement ceux d'Eleanor. Elle était manifestement retombée lourdement d'une certaine hauteur, car son dos semblait brisé. Keller s'approcha d'elle avec une lenteur respectueuse et presque religieuse. Il écarta doucement les cheveux de son visage, puis la couvrit de baisers et de larmes tout en lui parlant à voix basse. Au bout d'un long moment, il semblait plus calme et entreprit de transporter le corps de la jeune femme sur son dos. Il la sortit de la funeste ronde et l'emmena à l'écart dans la première maison ouverte du village. Là, il s'allongea sur un lit, puis alla chercher de l'eau à la fontaine et la nettoya du mieux qu'il put. Ses marmottements ne cessèrent pas. On eût dit que son âme blessée s'écoulait par sa bouche, en flots de paroles incohérentes. Il passa toutes les heures qui restaient de jour à s'occuper de ce corps inconnu, puis il se déshabilla, se lava à grande eau à la fontaine et retourna près de la jeune morte. Parfois il la couvrait comme si elle était endormie, parfois il posait l'oreille sur son ventre et souriait comme s'il entendait un battement de cœur. Parfois il lui demandait pardon. Et puis, lorsque la lumière commença à décliner au dehors, il s'allongea près d'elle et s'endormit presque aussitôt, serrant comme une poupée le cadavre qui commençait à devenir rigide et glacé. Épilogue. Une lunaison avait passé. À Eleanor était toujours alitée et ne sortait de sa mélancolie que pour s'occuper de Kelnor, son fils, qu'elle chérissait au-delà de la raison. Son état physique n'alarmait pas les guérisseurs, mais sa convalescence était extraordinairement lente. Personne ne savait exactement ce qu'elle avait subi. Elle n'en avait parlé à personne. Elle essayait nuit et jour de contacter Keller par l'esprit, mais les papillons vouaient toutes ses tentatives à l'échec. Aumont était venu la voir plusieurs fois, pour lui demander de se ressaisir, de s'adresser aux nouveaux citoyens d'Albâtre, de leur accorder sa bénédiction, mais elle n'en avait pas la force. Elle recevait tous les jours des gerbes de fleurs et des lettres. Aumont lui disait qu'au dehors, elle était devenue une sorte d'icône, que les nouveaux citoyens l'appelaient reine, qu'ils voulaient voir le fils de Maître Keller. À Eleanor ne l'écoutait pas. Elle ne parlait qu'avec Cardone, lui demandant de lui répéter sans cesse les dernières paroles de Keller avant son départ. Elle était presque sûre qu'il était parti pour la cité monastère, mais lorsque les hommes d'Albâtre étaient arrivés là-bas, ils n'avaient trouvé qu'un immense bûcher funéraire avec les restes d'une centaine d'hommes et de femmes. Keller n'était pas là. Personne ne savait qui avait tué les spiritualistes, ni qui leur avait rendu ce dernier hommage. À Eleanor avait supplié Aumont de laisser une vigie sur place le plus longtemps possible. Tous les 3 jours, on allait le ravitailler et prendre des nouvelles. La cité monastère était vide. Il n'y avait rien, aucun signe, aucun indice. Keller faisait-il partie des corps carbonisés? Était-il seulement venu à la cité? Avait-il succombé à ses blessures quelque part dans la montagne? Aucune patrouille d'éclaireurs ne le retrouva, et pourtant ces hommes, extrêmement fidèles, avaient organisé une battue minutieuse. Lorsque ses pensées avaient tourné en rond suffisamment longtemps autour de cette incompréhensible disparition, à Eleanor ne pouvait s'empêcher de penser à son autre enfant, à Joris et au maître Sornard. La guilde de l'ombre s'était tout simplement volatilisée. La caserne était vide, aucun des frères sombres n'avait été vu, ni pendant le combat, ni après. À Eleanor était quasiment certaine que c'était Sornard qui avait massacré les spiritualistes, et elle savait qu'il avait un dessein particulier pour son enfant. La vérité était aussi simple qu'intolérable. Ils avaient massacré les spiritualistes, et probablement Keller, ils avaient volé leur enfant, et avaient failli la tuer elle, et puis ils avaient disparu sans laisser de traces. Le petit Kelnor grossissait à vue d'œil dans ses langes de dentelle blanche. Il savait déjà sourire, et son regard de nouveau-né, oscillant entre l'expression de l'innocence et celle de la sagesse, avait le pouvoir presque magique d'apaiser sa mère. Elle décida au bout de quelques semaines, sur les supplications de Cardone, d'accepter de le présenter à la foule. Eu égard à l'incroyable engouement populaire autour d'Aelenor, de Keller et de leur fils, Aumon décida de transformer cette présentation en une fête officielle de la nouvelle albâtre. Aelenor se prêta au jeu, mais prévint qu'elle et son fils ne paraîtraient que quelques minutes. Lorsqu'elle sortit sur le balcon du palais, où elle était alitée depuis un mois, devant la foule agenouillée, Aelenor crut défaillir. Elle n'avait pas voulu le voir, mais ils avaient réussi. Elle et Keller, par leur force conjuguée, ils avaient brisé la frontière d'Albâtre. Un sentiment de joie irrépressible s'empara d'elle, un sentiment qu'elle aurait dû partager avec Keller et qui lui rappela cruellement combien il lui manquait. Lorsqu'elle souleva Kelnor à bout de bras pour le porter devant la foule et qu'elle entendit le tonnerre des acclamations et de la liesse, elle fut frappée par un phénomène singulier dont elle n'avait jamais fait l'expérience, même avant les papillons. Elle eut une vision d'une parfaite netteté, celle d'un autre nourrisson, semblable à Kelnor, mais beaucoup plus maigre et tout aussi diaphane qu'au jour de sa naissance. Son expression n'était pas paisible et satisfaite comme celle de Kelnor, mais angoissée. Un mince linge noir et crasseux le recouvrait. La lumière qui filtrait du lieu était blafarde et malsaine. La vision s'interrompit alors qu'Aelenor tenait toujours Kelnor au-dessus de la foule. Elle étouffa un hoquet et reprit son bébé dans ses bras, le visage blême et des larmes sur le visage. Tout le monde crut que l'émotion de la cérémonie l'avait submergée et elle put sans attirer l'attention revenir au calme relatif de ses appartements. Une fois seule, elle berça longuement Kelnor. Dans les clameurs de la fête à laquelle elle n'avait aucune envie de prendre part, elle songeait. Elle avait abandonné ce bébé. Elle ne lui avait pas donné de nom. Elle n'avait parlé à personne de son existence. Elle avait essayé de l'oublier et il l'avait appelée à l'aide. La compassion qu'elle avait ressentie pour lui à travers sa vision ne lui laisserait désormais plus de paix. Il était seul, maltraité, mal nourri. Il avait froid et il était son fils, l'un des fils de Keller. Kelnor, murmura-t-elle, tu te souviens de ton frère ? Le bébé s'était endormi sur son épaule et elle continua pour elle seule. Tant qu'il me restera un souffle, je les chercherai, tous les deux.